VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
18h30, en temps universel, le monde aujourd'hui, en direct de Washington. Au micro, Dilly Dico, bonsoir. À la une de l'actualité, ce vendredi 29 septembre, au Mali, les partisans de l'imam Mahmoud Diko ont joint leur voix aux protestations contre le report de la présidentielle. Au Gabon, Sylvia Bongo Ondimba, l'épouse du président déchu, a été inculpée de blanchiment de capitaux et maintenue en résidence surveillée. Aux États-Unis, le compte à rebours a commencé avec un grand risque de fermeture du gouvernement fédéral samedi à minuit. Aussi, la doyenne du Sénat américain, Dianne Feinstein, figure historique du Parti démocrate, est morte en Californie à l'âge de 90 ans. Ne manquez pas notre rubrique économie et les sports, mais tout d'abord, le journal. Au Mali, les partisans de l'imam Mahmoud Diko, une figure religieuse et politique du pays, ont joint leur voix aux protestations contre le report par la junte de l'élection présidentielle. Le point avec Jacques Aristide.
La coordination des mouvements, associations et sympathisants de l'imam Diko est d'avis que ce report ouvre la voie à un maintien au pouvoir qui ne dit pas son nom. En début de semaine, la junte a qualifié de léger le nouvel ajournement du scrutin présidentiel, initialement prévu en février prochain, invoquant des facteurs techniques et non pas la persistance de la violence dans une grande partie du Mali, ni la reprise des hostilités avec des groupes armés dans le nord. Les fidèles de Mahmoud Diko affirment que les colonels ont montré leurs limites et annoncent des actions à venir pour exiger la mise en place d'une transition civile. Plusieurs organisations politiques se sont indignées du report de l'élection et ont remis en question l'argumentaire du pouvoir. L'imam Diko a été la figure tutélaire de la contestation qui a précédé le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta par des militaires en 2020.
Toujours au Mali, l'armée malienne a rapporté l'attaque de 3 de ses postes depuis mercredi. Les rebelles et les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans revendiquant chacun la prise temporaire de 2 postes militaires. L'armée a dit jeudi soir que son camp de Djoura, dans la région de Mopti, a été visé par une attaque suicide, sans plus de détails. Au Burkina Faso, des milliers de personnes ont manifesté à Ouagadougou en soutien au régime militaire, appelant à l'adoption d'une nouvelle constitution un an après l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré. Les manifestants, rassemblés place de la Nation, ont brandi des drapeaux du Burkina Faso, du Mali, du Niger et de la Russie, ainsi que des posters à l'effigie du capitaine Traoré. Et c'est justement demain, le 30 septembre, l'anniversaire de la prise du pouvoir par le capitaine Ibrahim Traoré. Un an plus tard, selon le spécialiste de la sécurité, Lassina Diarra, les attaques djihadistes meurtrières persistent. Et selon le Conseil norvégien, pour les réfugiés, plus de 6000 écoles sont toujours fermées. Au Niger, 7 soldats ont été tués hier dans l'ouest du pays lors d'une attaque de djihadistes présumés et 5 autres sont morts dans un accident de la circulation au cours d'une intervention en réponse à cette attaque. Jeudi, dans la région de Tillabéri, une unité anti-djihadiste en mission de sécurisation à Kandadji a été violemment attaquée par plusieurs centaines de terroristes, a annoncé dans un communiqué le ministre de la Défense. Au Gabon, Sylvia Bongo Ondimba Valentin, épouse du président déchu, a été inculpée de blanchiment de capitaux. Elle est maintenue en résidence surveillée, a annoncé le procureur de la République de Libreville. Le point avec Nanit Talani.
Madame Sylvia Bongo Ondimba Valentin a comparu hier devant le juge d'instruction qui l'a inculpée de blanchiment de capitaux, recel, faux et usage de faux et a ordonné son assignation à résidence, selon le procureur André Patrick Ropona. La première dame et Noureddine ont usurpé le pouvoir d'Ali Bongo. Depuis son AVC, ils ont falsifié la signature du président. Il donnait des ordres à sa place, en plus du blanchiment d'argent et de la corruption, disait le général Brice Oligui Nguema, auteur du putsch. Noureddine Bongo Valentin, leur fils, est déjà inculpé et incarcéré pour corruption, détournement de fonds publics, blanchiment de capitaux, falsification de la signature du président de la République et trouble des opérations électorales. Plusieurs jeunes proches de la présidence et deux anciens ministres sont aussi en prison. La nuit du putsch, le 30 août, ils ont été arrêtés et montrés avec d'innombrables malles, valises et sacs contenant des centaines de millions d'euros saisis à leur domicile.
En Tunisie, le chef du parti islamo-conservateur Ennahda, Rached Ghannouchi, a commencé vendredi une grève de la faim de 3 jours pour dénoncer sa détention et pour exprimer son soutien aux autres prisonniers politiques, a annoncé son mouvement. Il a été arrêté en avril après avoir déclaré que la Tunisie serait menacée d'une guerre civile si les partis de gauche ou ceux issus de l'islam politique comme le sien sont éliminés.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, à moins que le Congrès et la Maison-Blanche ne parviennent à s'entendre sur un budget ou à prolonger le financement à court terme, le gouvernement fédéral va fermer ses portes le 1er octobre 2023. Des milliers d'employés fédéraux seront mis au chômage technique. Alexandrine Rolognon nous en dit davantage.
En l'absence d'accord, le financement d'une grande partie du gouvernement fédéral expire samedi à minuit, ce qui risque d'entraîner des perturbations dans tous les domaines, du transport aérien au versement des allocations, et si le shutdown se prolonge, de porter un nouveau coup à l'économie américaine. L'impasse a été déclenchée par un petit groupe de républicains qui sont opposés à des accords de financement à court terme, alors que le Congrès tente de sortir d'une impasse plus large sur les appels à des réductions importantes des dépenses. Certains employés fédéraux ont déjà été informés des préparatifs en vue d'une fermeture. Des centaines de milliers de fonctionnaires fédéraux seront mis en congé sans solde. Les militaires et autres employés considérés comme essentiels vont continuer à travailler sans toucher de salaire. La Maison-Blanche a prévenu qu'une fermeture pourrait entraîner un sous-financement du fonds d'aide aux sinistrés de l'Agence fédérale de gestion des urgences et retarder près de 2000 projets de redressement à long terme dans tout le pays.
La sénatrice Dianne Feinstein, une démocrate qui a été élue en 1992, est décédée à 90 ans. Elle était considérée comme une pionnière de la politique féministe. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La doyenne du Sénat, Dianne Feinstein, avait déjà annoncé sa retraite en février dernier, alors que sa santé se dégradait. Au début de l'année, elle a manqué près de 3 mois de travail au Congrès en raison d'une maladie et se déplaçait en fauteuil roulant à son retour. Chuck Schumer, chef de la majorité démocrate au Sénat, l'a décrite comme une héroïne qui a changé le tissu de la nation. Son homologue républicain Mitch McConnell a salué les services dévoués d'une amie de longue date et d'une personne remarquable. La sénatrice Dianne Feinstein était une Américaine pionnière et pour Jill et moi, une amie très chère, a déclaré le président Joe Biden. Elle est devenue la première femme maire de San Francisco après l'assassinat en 1978 du maire George Moscone. Élue sénatrice en 1992, elle a pris la tête de centaines de projets de loi et s'est hissée à la présidence de la puissante commission du renseignement, une autre première pour une femme. Elle a rédigé l'interdiction des fusils d'assaut en 1994 et produit un rapport de 6700 pages sur le programme de torture de la CIA dans la guerre contre le terrorisme. Son décès réduit à 50 le nombre de démocrates et de leurs alliés au sein du Sénat. Cela ne devrait pas modifier l'équilibre étroit des pouvoirs car le gouverneur démocrate de Californie, nomme un remplaçant temporaire pour le reste de son mandat qui s'achève en janvier 2025.
La Croix-Rouge a demandé ce vendredi plus de 20 millions de dollars pour répondre aux besoins humanitaires croissants face à l'exode des Arméniens de l'enclave du Nagorno-Karabakh. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. Et maintenant, la Minute Éco, un condensé des nouvelles économiques avec Alexandrine Hollognon.
Les transactions en crypto-monnaie ont atteint plus de 117 milliards de dollars entre juillet 2022 et juin 2023 en Afrique subsaharienne. Cela ne représente que 2,3% des transactions en crypto-monnaie recensées à l'échelle mondiale. Selon l'agence Ecofin, certains pays africains sont bien classés dans l'indice mondial d'adoption de ces monnaies numériques qui sont de plus en plus utilisées comme bouclier contre l'inflation. L'Afrique du Sud a enregistré une forte hausse des investissements directs étrangers. Au second trimestre 2023, le pays a enregistré des flux d'investissements directs étrangers de plus de 53 milliards de rand, soit 2,8 milliards de dollars sur cette période, selon des données publiées par la Banque centrale citées par l'agence Ecofin. Les pressions inflationnistes sous-jacentes ici aux États-Unis se sont atténuées en août. La hausse annuelle des prix hors alimentation et énergie est tombée en dessous de 4,0% pour la première fois depuis plus de deux ans. Une bonne nouvelle pour la Réserve fédérale qui réfléchit aux perspectives de la politique monétaire. Mais la bataille contre l'inflation est loin d'être gagnée, selon les experts.
Place au sport avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Dili, bonsoir à tous.
Yacouba, la FIFA et la CAF appelaient à agir contre Samuel Eto'o.
Oui, dans une lettre datée du 25 septembre 2023, huit acteurs du football camerounais expriment leur mécontentement face à l'inaction de la FIFA et de la CAF, disent-ils, concernant leurs accusations contre Samuel Eto'o, président de la Fédération camerounaise de football. Parmi les signataires, on compte le président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, Pierre Semengue, et Henri Ndialakan Jr., ancien vice-président de la Fédération. Les auteurs de la lettre listent plusieurs griefs contre le quadruple ballon d'or africain, dont sa condamnation par la justice espagnole pour fraude fiscale en juin 2022, l'agression d'un youtubeur algérien en marge du mondial 2022 au Qatar et la signature d'un contrat en mai 2023 avec la société de paris sportif OneXBet en violation flagrante du code d'éthique de la FIFA selon eux. De plus, Eto'o est soupçonné de manipulation de match suite à la diffusion en juillet dernier d'une conversation téléphonique entre lui et un président de club local réputé proche. Samuel Eto'o fils nie toute malversation. La CAF a ouvert début août une enquête pour conduite inappropriée présumée. Dans une lettre datée du 28 septembre et adressée au président de la FIFA, Gianni Infantino, des proches d'Eto'o disent lui apporter leur soutien.
Suite ce week-end des matchs retour du dernier tour préliminaire des compétitions africaines.
Plein de matchs ce samedi en Ligue des Champions après son match nul un but partout à l'aller, le Wydad de Casablanca reçoit le Afia de Conakry. L'autre club de Conakry, le Oruya, a deux buts à remonter devant les Ghanéens de Madiyama, vainqueur à l'aller 3 buts à 1. L'Espérance de Tunis reçoit l'AS Douane du Burkina Faso, battu 1 à 0 à l'aller. En Coupe CAF, le stade malien de Bamako voudra finir le boulot face au Burundais de l'Aigle Noir, battu 2 à 0 à l'aller. Académie de Fade de Côte d'Ivoire, vainqueur 2 buts à 1 à l'aller, fait face aux Guinéens de SOAR.
Et Naples se défend d'avoir voulu se moquer de Victor Osimhen sur TikTok.
Le club italien dit n'avoir pas eu l'intention de se moquer de son attaquant nigérian dans une vidéo postée sur son compte TikTok, ce qui avait particulièrement heurté l'agent du joueur qui a menacé le Napoli de poursuites judiciaires. Le Napoli, afin d'éviter toute exploitation médiatique de cette affaire, précise qu'il n'a jamais voulu offenser ou se moquer de Victor Osimhen, indique le champion d'Italie en titre dans un communiqué. Comme chacun le sait, sur les réseaux sociaux, en particulier sur TikTok, il faut utiliser un langage expressif de la légèreté et la créativité. C'est justifié Naples. Le post TikTok, depuis effacé, montrait la tentative de pénalty ratée par Osimhen contre Bologne dimanche dernier dans le cadre de la cinquième journée du championnat d'Italie, commentée par une voix haut perchée disant « Donne-moi pénalty, s'il te plaît ».
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Dili Diko, de retour avec vous. Passons à notre tranche magazine. Demain, 30 septembre 2023, c'est le premier anniversaire de l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré qui a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba. Près d'un an après sa prise de pouvoir, où en est le Burkina Faso? Des éléments de réponse dans ce reportage de notre correspondant Gilles Dasda.
D'entraîner les forces à un affrontement.
En ligne ce 1er octobre 2022 avec Bagassi Koura sur VOA Afrique, le capitaine Ibrahim Traoré, l'officier qui n'est pas encore aux commandes du pays, clarifie ses intentions.
Nous ne sommes pas là pour du pouvoir. L'idée n'est pas le pouvoir. Ça ne nous intéresse pas ça. Ça empêche de vivre tranquillement, si je peux dire.
La lutte pour la prise du pouvoir débute un jour plus tôt. Soit le 30 septembre, Ibé et ses compagnons font alors une apparition sur les antennes de la télévision nationale. Contre Damiba, arrivé au pouvoir il y a 8 mois, ils ont un grief, le terrorisme que ce dernier n'arrive pas à juguler. C'est décidé, la guerre contre le terrorisme sera placée au centre des actions du capitaine Traoré qui aura entre-temps fini par prendre le pouvoir. Sa lecture de la lutte contre l'insécurité semble alors bien cernée. Près d'une année après son arrivée au pouvoir, la situation sécuritaire du pays interroge et les changements de partenaires arrivent très vite. Exit la France et bienvenue à la Russie. De fin septembre 2022 à ce jour, il y a de bonnes nouvelles pour les populations burkinabées. Achat d'armes, de blessés, d'aéronefs, y compris des drones dont les vidéos de frappe font la une des journaux de la télévision nationale. Des localités comme Solenzo, Dassa ou encore Obiré ont été reprises par les forces de défense et de sécurité. Le dernier conseil des ministres en date fait état de plus de 190 000 déplacés internes qui ont rejoint leurs localités. Mais on ne saura pas grand-chose sur les localités qui ont repris vie. Ce que l'on sait, c'est qu'il y avait plus de 2 millions de déplacés internes à la date du 31 mars 2023. Sur les théâtres des opérations, la lutte est rude. De grandes localités comme Dori, Tougan, Nouna sont désormais coupées du reste du pays. Des convois militaires sont obligatoires pour leur ravitaillement. Cette année aussi, en dépit de leur victoire, les combattants burkinabés ont subi certaines pertes. C'est le cas du détachement de Ougarou et récemment l'attaque de Koumbri qui a fait une cinquantaine de morts dans les rangs des forces burkinabées. Symbole de la dure réalité du terrain, il y a aussi les tourments que subit l'enseignement. Le pays est passé selon les chiffres officiels de 4258 écoles fermées en mai 2022 à 6149 en mai 2023. Pour ramener la quiétude, le gouvernement sous le capitaine Traoré lance l'effort de guerre. Des taxes sur les boissons, les services de téléphonie mobile ou encore les opérateurs de télévision par satellite. Des taxes plutôt dures, mais les populations s'en accommodent dans l'espoir d'un retour de la paix. Car il faut pour cela de l'argent pour équiper les FDS et près de 90 000 VDP. Dans cette guerre, la croissance économique du pays a aussi pris un coup, passant de 6,9% en 2021 à 3,2% en fin 2022. Situation due à la baisse des activités extractives. Au bas mot, on parle d'une quarantaine de mines qui ont fermé boutique du fait de l'insécurité. Dans son discours sur l'état de la nation en juin passé, le premier ministre avait affirmé devant l'Assemblée législative de transition, on ne peut pas faire des élections sans la sécurité. Gilles Dasda, Ouagadougou, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Les populations qui font du commerce entre le Rwanda et la République démocratique du Congo souhaitent que les relations entre les deux pays s'améliorent car elles ont jusqu'ici entravé leurs échanges. Certaines organisations se mobilisent pour tenter d'améliorer la situation. Le reportage à Kigali de Jean Damascène, d'Ami Chimier.
L'optique commerce est la principale activité des populations rwandaises et congolaises qui traversent régulièrement les postes frontaliers reliant la ville de Gisenyi côté rwandais à celle d'Ogoma en République démocratique du Congo. Elle déplore tout de même les relations tendues entre les deux pays. Dans ce climat de méfiance, leur commerce ne rapporte plus comme avant. C'est ce qu'indique ces commerçants rencontrés au marché de Gisenyi au Rwanda.
Actuellement, le commerce va très mal. Avant, je vendais des oignons et du piment dans mon petit commerce, mais ça ne marche pas. Tu viens ici avec peu d'argent et au marché, les prix sont élevés. Comme ça, nous ne gagnons rien.
Il y a des conséquences. Au Congo, on nous exige des pièces qui ne l'étaient pas dans l'OTAN. Par exemple, nous qui sommes en situation d'handicap, nous faisons le transport des marchandises aller-retour, mais on nous demande des permis de séjour. Face à cette situation, certaines organisations se mobilisent pour assister ceux qui font le commerce transfrontalier et les populations vulnérables qui traversent les frontières. C'est ce qu'indique le docteur Elvis Mbembe de l'Initiative pour la paix et les droits humains.
Au niveau des frontières, il y a souvent des problèmes et il peut arriver que vous avez votre locataire au Rwanda et un jour vous vous réveillez, vous trouvez qu'il n'est plus à la maison, il est parti s'appuyer vos loyers et vous ne connaissez pas ce qui se passe de l'autre côté, vous ne connaissez pas les systèmes judiciaires de l'autre côté, vous ne savez pas les poursuivre. Et donc ce projet est venu pour aider les gens qui vivent le long des frontières pour résoudre ce genre de problèmes.
Les organisations qui appuient les populations avoisinant les frontières souhaitent que les deux pays normalisent leurs relations car la vie des populations en dépend largement. Ariane Inyesha représente l'organisation Alerte Internationale.
Il y a des tensions politiques que nous connaissons tous, mais les communautés rwandaises et congolaises continuent à interagir, que ce soit au niveau économique, même social. Nous voulons vraiment réduire les tensions, contribuer à la paix dans les deux pays. Et bien sûr, l'accès à la justice en fait partie, mais il faut aussi continuer des échanges et puis surtout voir que ces communautés transfrontalières en ont besoin.
Avant la détérioration des relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et la pandémie de Covid-19, les Rwandais et les Congolais qui traversaient chaque jour la frontière de Goma-Gisenyi étaient plus de 55 000, alors qu'ils ne sont que moins de 15 000. Aujourd'hui, Jean Damaselman Ishimwe pour VOA Afrique, Kigali.
VOA Afrique, à Kigali, au Rwanda, sur 104.3, 24h sur 24.
Les législateurs républicains de la Chambre des représentants ont tenu hier leur première audience de mise en accusation du président Joe Biden, affirmant qu'il a abusé de ses fonctions pour le bénéfice financier de sa famille. Les démocrates affirment que l'enquête n'a pas encore fourni de preuves à l'appui de ces affirmations. Un compte-rendu de la correspondante de la VOA au Congrès, Catherine Gibson, relaté par Nathalie Barge.
Au cours de l'audience, les républicains ont tenté de démontrer la connivence entre les activités commerciales de la famille Biden et la fonction du président Joe Biden. James Comer, président de la commission de surveillance et de responsabilité de la Chambre des représentants.
Pendant des années, le président Biden a menti au peuple américain sur sa connaissance et sa participation aux projets commerciaux corrompus de sa famille. Au moins 10 fois, Joe Biden a menti en affirmant qu'il n'avait jamais parlé de ses relations commerciales avec sa famille. Il a menti en disant qu'il y avait une séparation totale entre ses fonctions officielles au sein du gouvernement et sa vie personnelle.
Toutefois, les républicains n'ont pas encore découvert de preuves tangibles que le président Biden a abusé de ses fonctions. Le démocrate Jamie Raskin de la commission de surveillance de la Chambre.
Ils ont invité 3 personnes à témoigner. Aucune n'est témoin oculaire d'un crime présidentiel, de quelle nature que ce soit. Aucune de ces personnes n'est un témoin direct des événements liés à l'Ukraine et à la Birmanie, et aucune n'a participé aux 8 mois d'enquête au cours de laquelle notre honorable président a déclaré publiquement qu'il avait reçu 100% de tout ce qu'il avait demandé.
Les démocrates soutiennent que les républicains enquêtent sur Biden pour détourner l'attention des actes d'accusation criminelle contre l'ancien président Donald Trump. Le démocrate Robert Garcia.
Tout tourne autour de Donald Trump, de sa campagne et de son soutien.
Un sondage mené par l'Associated Press et le Centre national de recherche d'opinion révèle qu'un Américain sur 3 s'inquiète de savoir si le président Joe Biden a commis des actes répréhensibles liés aux relations commerciales de son fils. Les républicains affirment qu'il lutte contre la corruption. La représentante républicaine Lisa McLean.
Let's get
Faisons preuve d'un peu de transparence. Suivons l'état de droit. Certains républicains ont exprimé des doutes sur l'enquête, affirmant qu'elle ne répond pas aux normes de mise en accusation d'un président pour crimes et délits graves. Et d'autres reconnaissent que, quoi qu'il en soit, toute tentative de destitution doit passer par le Sénat à majorité démocrate. Le représentant républicain Darol Issa.
Nous ne nous attendons pas à ce que le Sénat vote en faveur de la destitution.
Si les législateurs ne parviennent pas à s'entendre sur les priorités de financement, le gouvernement américain fermera ses portes le 1er octobre et aucune audience ne pourra avoir lieu au Congrès avant l'adoption de nouveaux financements.
VOA Afrique en direct de Washington.
Parlons à présent de boxe avec le combat tant attendu entre le champion d'arts martiaux mixtes Francis Ngannou et le champion WBC Tyson Fury. Le Camerounais fera face au Britannique le 28 octobre à Riyad en Arabie Saoudite. Ngannou se prépare à Las Vegas, sa ville de résidence, sous le coaching de la légende Mike Tyson. Yacouba Ouedraogo.
Des coups secs et puissants résonnent dans cette salle au mur noir de Las Vegas, devant une petite assemblée fascinée. La star du MMA Francis Ngannou prépare son combat de boxe contre Tyson Fury, assisté par la légende américaine Mike Tyson. Le Camerounais de 37 ans, ancien champion poids lourd des arts martiaux mixtes, a surpris en programmant un combat lucratif et intrigant de boxe anglaise contre le Britannique.
Pour ce combat, je ne m'entraîne pas comme un combattant MMA. Je suis là pour boxer. Je m'entraîne comme un boxeur.
Couvert de protection, l'entraîneur Dwayne Cooper se fait molester par Ngannou. Gauche, droite, crochet, uppercut. Cooper mène une danse précise qui fait parler les poings du colosse camerounais de 1m93 et près de 120 kg. Plus en retrait, Mike Tyson, 57 ans, intervient parfois pour corriger un mouvement, mimer des gestes foudroyants sous le regard studieux de l'élève Ngannou.
Déjà même l'aspect psychologique de se rendre compte que oui, il y a Mike Tyson lui en personne là qui est dans ton coin et qui croit en toi, tu te dis mais c'est réel au fait.
Le Camerounais qui qualifie Tyson d'idole n'a pas de palmarès professionnel en boxe. Il s'est forgé une réputation de redoutable cogneur en devenant champion des poids lourds de l'UFC, titre qu'il a conservé jusqu'à son départ de la discipline en janvier dernier. Le Predator, son surnom, assure prendre ce combat contre Fury très au sérieux, lui qui pratiquait la boxe anglaise avant son arrivée en France en 2012 et sa découverte du MMA.
Il y a aussi quelques années, on me disait la même chose à propos du MMA. À quel point ça va être différent pour toi le MMA? Aujourd'hui, on parle du MMA comme si j'ai grandi dans le MMA.
Ngannou a remporté 17 de ses 20 combats professionnels à l'UFC, dont 12 par KO. En face, Tyson Fury, 35 ans, champion WBC, est invaincu, 33 victoires et 1 nul, et règne à mettre sur la catégorie poids lourd. Malgré le déséquilibre apparent, le coach de Ngannou, Mike Tyson, reste confiant.
Francis est bien plus fort que Tyson Fury. Il va le bousculer. J'ai vraiment hâte d'attendre la première cloche. Je suis vraiment content de faire ça.
Fury ne mettra pas en jeu sa ceinture face à Ngannou pour un combat bien disputé selon les règles officielles du Noble Art. Le gain est aussi financier pour le Camerounais. Grâce à ce combat, il va gagner plus d'argent que lors de l'ensemble de sa carrière à l'UFC, dit-il.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, Dilly Dico à la présentation. Merci à toute l'équipe de production et merci pour votre fidélité. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voafrique.com et sur nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.